Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 196 du podcast Dunk Hebdo. Au programme cette semaine, on est de retour et avec cela notre Power Ranking post-trade deadline. Avec moi pour en parler cette semaine, Tom et Adrien, comment ça va les gars?
Ça va, on revient de vacances NBA.
Très bien et toi? Très bien.
C'est ça, on revient sur le continent européen. On est là pour parler NBA, ça fait plaisir. On a en fait sur une idée de Tom qui a fait le travail de consensus, je le dis tout de suite. C'est les maths et Tom, Excel, c'est lui, Excel. Les gens le savent, les savent. On a en fait chacun établi un power ranking, donc de 1 à 30, juste après la trade deadline. Puis Tom a mis en place donc le consensus sous forme de points. Moins on a de points, plus on est haut. C'est ça, Tom?
C'est ça, c'est ça. En gros, l'idée c'était en fait de multiplier le nombre de positions par le nombre de votants et après voir le nombre de points. En gros, si t'avais, si t'étais, je sais pas moi, 3 fois 29e, bah du coup on multipliait 29 par 3.
T'as c'est pas ça. Pris l'exemple le plus simple à calculer de tête.
Mais les gens ont compris, ça nous donne voilà un power ranking, ça nous donne des groupes, ce que les Américains appellent des tiers, donc plusieurs étages en quelque sorte. On va en discuter ensemble durant deux épisodes. Premier épisode aujourd'hui, on va parler des cancres, des effets, des équipes un petit peu plus en difficulté avant la crème de la crème pour la semaine prochaine. Donc on a en fait 8 groupes. Il y a 8 groupes qui se sont formés, un petit peu issus de nos power rankings à chacun. On va parler des 4 groupes les plus bas. Donc ça nous fait quand même, les gars, parler de plus de la moitié des équipes de la Ligue. On va de 30 à 14. On va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On a beaucoup de choses à dire, même si... Et je vous invite, si les gens n'ont pas écouté, à aller écouter l'épisode que vous avez fait tous les deux il y a deux semaines sur un petit peu recap de la trade deadline. Là, on va bien sûr reparler de certains de ces mouvements, mais on va parler aussi des situations, des équipes, des blessures, de ce qu'on entend pour la fin de saison. Avec, les gars, le premier groupe. Le groupe qui veut aller chercher le premier choix de draft, mais alors qu'il n'y a pas Zion, je pense qu'on va l'appeler comme ça. C'est ça. Donc on a Charlotte 26e, les Knicks 27e de notre power ranking, les Cavs 28e, les Warriors 29e et les Pistons 30e. Adrien, les Pistons dernier du power ranking, petite pensée à Elias, petite pensée à Winston des chroniques de Motor City. Est-ce que toi déjà tu les avais à la 30e position et pourquoi? Voilà, il y a André Drummond qui n'est plus là. Ils ont coupé Rich Jackson, ils ont coupé Markieff Morris. C'est. Ça sent pas très bon, quoi.
Ouais, cette semaine, on a vu qu'ils ont acté ce qu'on avait un peu tous pressenti de bon, on va vraiment tourner une page. Et effectivement, ouais, je les avais 30e. Je crois que tout le monde, sauf toi, Alan, les avait 30e. Donc, il y a un peu un consensus. On pense évidemment donc aux fans des Pistons. C'est ce qu'on a vu au début. Ils ont été actifs au début avec le trade de Drummond. Cette semaine, le fait de couper Jackson et Morris semble aller dans le même sens. Bon, voilà, ils disent, bon, on va reconstruire à zéro. C'est vraiment du from scratch. C'est vraiment, là, en plus, c'est même pas des trades où ils ont récupéré des assets derrière. C'est vraiment le côté, on se débarrasse des pages précédentes avec plus ou moins de bons souvenirs. Il s'est quand même passé des choses à Détroit. Et là, on repart à zéro. Le truc, c'est que, voilà, comme je disais, il n'y a pas beaucoup de compensation. Donc, moi, j'arrive pas à savoir où ils vont aller. Ça se commencera probablement cet été. On voit bien que cette fin de saison du côté de Détroit, elle est plus ou moins actée comme bon, elle va passer, on attend que le temps passe et puis on reprend à zéro cet été, quoi.
Tom, on t'avait entendu un petit peu parler sur les Pistons. Ils ont dégagé l'ossature. Il reste que Blake Griffin en quelque sorte, plus des joueurs sur contrat rookie ou sur deuxième contrat en dessous de la mid-level. Qu'est-ce que je sais pas ce qu'on peut dire d'autre sur tes trois.
Bah, c'est la première étape de la déconstruction, hein. Voilà, ils se sont séparés de Drummond. Il y a Griffin, bon, qui reste là parce que je pense que son contrat n'est pas forcément bougeable, hein. Je pense que c'est surtout ça. C'est une équipe qui reste sur 11 défaites sur les 13 derniers matchs. Donc voilà, ils sont clairement sur la pente descendante. Donc eux, ils ont plutôt axer leur stratégie sur la création de cap space pour essayer d'extraire des assets du côté des autres équipes qui est normalement la bonne marche à suivre quand tu commences à reconstruire, ne pas simplement t'appuyer sur tes propres assets à toi, mais essayer d'aller en récupérer chez les autres équipes. Donc voilà, c'est une équipe qui a tourné une page et qui s'occupe vraiment des jeunes. On voit quand même, voilà, Thonmaker qui essaye de jauger, qui a de plus en plus de minutes et qui commence même les matchs. Sekou aussi qui joue de plus en plus dans cette équipe-là. Bruce Brown en meneur de jeu, quoi. Enfin, voilà, le plan Christian Wood est lancé, mais bon, globalement, enfin, l'équipe est en train de vraiment de tourner une page. Et je me souviens en fait que quand on faisait le podcast des previews, on se demandait est-ce que c'était pas du coup Détroit ils construisaient pour l'après, et finalement ça vous a donné raison. Je sais pas si tu te souviens de ça, je crois que c'était avec Ben et toi, Alan.
Ouais, je pense c'était on en parlait depuis quelques années avec Détroit, il fallait remplir la
C'est
salle, il
ça.
fallait attirer du monde. Et donc ils l'ont fait en cherchant Blake Griffin, en faisant deux qualifications en playoff où malheureusement ils tombent à chaque fois contre deux énormes équipes, prennent pas un match. Bon, il était temps de se dire ça, ils ont eu le courage de le faire, je trouve ça bien. Donc,
Ouais, c'est ça, c'est finalement, voilà, ils ont all-in, comme tu disais, avec un projet, mais bon, finalement, enfin, sur le papier, c'est tout à leur honneur. Fallait essayer le Blake Griffin Drummond, il y avait une chance que ça fonctionne, bon, c'est pas allé au bout, mais voilà, on a vu ce que ça a été fait, ils sont contents ou mécontents, ils se sont dit, bon, bah voilà, on arrive au bout, on passe à autre chose.
ouais, s'ils avaient réussi leur draft, mieux réussi leur draft autour de ça, quand ils avaient les choix à loterie, ils n'en seraient pas là. Mais comme tout le monde, on va pas refaire l'histoire, mais je pensais à ça en préparant, mais Devin Booker à la place de Stan Johnson.
Ouais,
et là
et ouais, c'est ça.
et
Et puis
c'est
même Mitchell juste après, qui
voilà, et
passe,
après
qu'il
tout
en
le monde en
passe. Ouais,
parle
c'est ça.
et c'est trop facile de dire ça,
Ouais.
mais ça fait quand même fantasmer. Et donc voilà, ils vont faire jouer plein de joueurs que j'adorais regarder en NCAA, ça va être super. Voilà, c'est il y a du beaucoup de joueurs sombres. Je pense que c'est des comme on l'a dit avec Tom l'année dernière quand on faisait ça, les équipes celles-là, elles regardent qui peut être potentiellement dans une rotation
C'est
l'année
ça, c'est
prochaine.
ça.
Donc c'est sur les équipes dont on va parler maintenant, c'est celle qui en est le plus le cas. 29e, Adrien, les Warriors. Ils sont bougés. Ils ont récupéré Andrew Wiggins, se sont séparés d'Angelo Russell, d'autres joueurs aussi sont partis dans ce deal. Klay Thompson, je crois que ça a été annoncé, les gars, qu'il ne rejouera pas de la saison.
Ouais.
Steph Curry, on le voit mettre des poignées à l'entraînement, mais je ne sais pas non plus.
Je pense,
Enfin,
enfin.
je ne suis pas persuadé. Je ne suis pas persuadé de l'utilité déjà. Alors
Je
ensuite.
pense qu'il va quand même jouer pour sa carrière aussi, puisque voilà, enfin, par rapport aux records, un peu les achèvements personnels, tu vois. Son total de points, son total de 3 points. Je pense qu'il va quand même rejouer. Et puis voilà, Steph Curry, on peut en dire ce qu'on veut, c'est quelqu'un qu'on aime voir jouer, entre guillemets. Hein. Enfin voilà,
Ah bah c'est
la
sûr.
NBA est beaucoup plus intéressante quand Steph Curry joue, tu vois. Donc peut-être que voilà, et même moi je trouve que ça peut être intéressant de le faire jouer, de le faire rejouer un peu pour qu'il ait déjà des automatismes avec les joueurs qui seront peut-être là l'an prochain, tu vois, pour un
Oui,
peu
voilà, c'est ce que
accélérer le
j'allais dire,
processus.
effectivement. Oui,
C'est
bah,
ça,
dans
ouais.
la même idée de ce que
Vas-y,
Détroit,
Adrien.
c'est-à-dire que vu qu'ils sont enfin, il va y avoir des joueurs là qui vont jouer pour être jaugés, pour savoir si on les garde, s'ils vont être tradés, enfin, qu'est-ce qu'on va en faire. Peut-être que l'idée d'avoir Steph Curry sur quelques matchs pour certains, pour voir comment ils peuvent s'assembler justement dans un système autour de Steph Curry, qui est une attaque totalement différente. C'est un joueur avec une telle aura, voilà, comme on disait, il change même la façon de jouer de ses coéquipiers. Tu peux te dire, ah, est-ce que ça va fonctionner? On peut essayer de le voir si Steph Curry est en forme et est capable de jouer. Ça peut être intéressant sur quelques matchs aussi de ce point de vue-là, au-delà des statistiques ou de remettre en forme Curry lui-même. De jauger, voilà, pour l'année prochaine, enfin, c'est évident pour les Warriors, on attend de revoir tout le monde en santé et puis on repart avec objectif titre, hein, évidemment.
C'est la question que je peux juste terminer avec ça, les gars, c'est de ce que vous avez vu sur les 50 premiers matchs, qui dans cette équipe-là peut jouer l'année prochaine dans une équipe compétitive des Warriors, selon vous? Parce que c'est bien beau de mettre des points et tout ça, mais parce que là, ce qu'on dit sur toutes ces équipes, c'est la même chose. Ah, ils vont regarder pour le futur. Très bien. Et de ce qu'on a vu pour l'instant, je sais pas, Tom ou Adrien, quel joueur? On a beaucoup parlé d'Eric Pascal notamment. On a parlé d'Amion Lee, tout ça. Est-ce que vraiment ces joueurs-là, selon vous, peuvent être l'année prochaine dans une rotation à 10 des Warriors? Ma question, c'est juste ça.
Moi, je pense qu'en termes de rôle, en fait, les joueurs qu'ils vont chercher seront beaucoup plus bas, en fait, dans la rotation. Puisqu'en gros, si tu imagines un 5, enfin 5-6 joueurs avec, par exemple, Wiggins, Curry, Draymond Green, Kevon Looney et Klay Thompson déjà dans le 5 majeur, t'as après peut-être Pascal, t'as le choix de draft qu'ils auront cette année, et t'as aussi l'exception, en fait, la trade exception qu'ils ont pour André Godala, où ils peuvent recruter un joueur qui a un contrat d'environ 16 à 17 millions l'année prochaine sans rien donner en échange, tu vois. Donc typiquement, tu vois, par exemple, je dis un truc tout bête, hein, mais il me semble que, par exemple, Evan Fournier, je pense que si peut-être il active son option Orlando, je crois qu'il est dans le range, en fait, de 17-18 millions, où il peut rentrer dans la trade exception. Et typiquement, tu vois, ça peut être un gars qu'ils ajoutent en sixième homme. Donc, moi, je pense que c'est plus les joueurs qu'ils ont là, ils vont regarder qui est-ce qui peut être, je sais pas moi, le 8-9e homme, quoi. Donc, t'as Pascal, bon.
T'as Marquis Chris, moi, je pense que Marquis Chris va jouer. Ouais.
Et puis il faut voir aussi leur choix de draft, qu'est-ce qu'ils en font, est-ce qu'ils récupèrent quelqu'un avec, puisque moi au début je pensais vraiment que c'est quelque chose qu'ils allaient faire pour essayer de récupérer Bradley Beal par exemple. On en a beaucoup parlé,
avec Tom Wiggins plus le choix de draft
et le choix de draft de Minnesota et à Washington contre Bradley Beal, je pense que c'est pas une offre dégueulasse.
Pour moi c'est une meilleure offre que avec D'Angelo Russell.
Ah ouais, tu trouves? Bah peut-être,
je pense que le Wiggins et le pick de Minnesota, peut-être plus potentiellement le pick des Warriors, c'est mieux que Russell et le pick des Warriors.
Ouais, t'as raison.
Donc je pense que en fait c'est ce qu'on attend des Warriors, c'est cet été maintenant.
Ouais, c'est ça.
Parce que même les joueurs potentiellement, je sais pas Adrien si t'es d'accord, qu'on va regarder là, je suis pas sûr que quand les Warriors devront jouer les équipes de Los Angeles ou Houston l'année prochaine en playoff, ils soient vraiment très utiles. Après, on peut être surpris, mais je suis pas persuadé.
Ouais, mais comme disait Tom, c'est que comme tu vas avoir, enfin, si on parle de rotation de joueurs qui vont contribuer en play-off, donc sur rotation serrée, effectivement, c'est peut-être peu probable qu'ils y soient tous. Ils peuvent aussi être mis dans un package, parce que là, tu parles de Wiggins plus les deux picks, mais peut y avoir des compromis à base de Wiggins, un pick, un autre joueur, si certains sont intéressés par Pascal, par exemple, qui, je pense, a une petite valeur. Mais moi c'est pour ça que je parlais plus de Marquis Chris. Moi je pense que c'est au niveau des grands que tu peux trouver quelqu'un.
Il a signé pour 2 ans en plus, hein. Ils l'ont voilà, signé pour 2 ans en plus.
Et qui a commencé à pas mal contribuer, qui dans un rôle d'athlète qui dépanne au poste 5 sur certaines line-up, je pense que lui par exemple peut trouver une place, mais en fond de rotation, pas sur tous les match-ups, sur tous les affrontements qui vont avoir lieu à l'Ouest, effectivement, mais de manière situationnelle, c'est un profil qui peut leur être intéressant. Après, pour le reste, effectivement, je suis d'accord avec vous, ça dépend énormément de ce qu'ils décident de faire, de leur pick ou non, enfin, des propositions qu'il va y avoir, de cet été, quoi, en somme.
C'est ça, et en plus de ça, ils auront quand même la taxpayer mid-level aussi, tu vois. Donc, ça leur fait pas mal de choses pour récupérer un joueur qui pourra peut-être les aider, tu vois, dans des grosses situations. Je les vois pas, comme cette année, être obligés d'aller sur des joueurs au minimum, quoi.
Exactement. 28e, les gars, de notre classement, les Cavaliers.
Ouais, oui. Aïe.
ils ont récupéré hier soir, pour être honnête, hein, j'ai regardé le match contre Miami et j'ai vu André Drummond et Thompson en même temps sur le terrain.
Ouais.
Je me suis dit, oula.
Bienvenue en 97.
C'est ça. Mais donc ils ont récupéré donc André Drummond contre Brandon Knight, John Henson et un second tour, je crois.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça.
Le deal. Tom, pareil, même question. Pourquoi ils sont 28e, les Cavs? Et qu'est-ce que. Voilà, il y a on peut surtout parler, je crois, de John Beilein.
Ouais, c'est surtout ça, ouais. Du coup, ils perdent leur coach, le coach qu'ils avaient signé, il me semble, pour 5 ans. Hein. En début de saison, 5 ans. C'est un coach qui était quand même âgé, qui signe pour 5 ans à l'aube de leur reconstruction et qui se retrouve à devoir faire sans lui quelques mois après, puisque au final sa méthode ne convenait pas. Voilà, c'est un coach qui était exclusivement un NCAA, Et bah, sa méthode ne convenait pas visiblement.
Très respecté en NCAA.
Ouais, c'est ça. Et ça convenait pas du coup aux professionnels, puisqu'il était trop, visiblement dans les articles qui sont sortis, de, notamment de, des articles de The Athletic avec Joe Varden, qui est l'insider des Cavs, et aussi un article avec Shams Charania. Visiblement, il était trop dans le dictat et trop dictatif.
Trop scolaire. Hein.
Voilà, beaucoup trop scolaire pour les, voilà, trop paternaliste pour l'NBA, quoi. Alors qu'il avait des. Trop de vétérans, et faut dire que la situation n'était pas idéale pour lui, donc voilà. Bon, après les Cavs pourront se consoler vraiment sur essayer de voir Kevin Porter Jr., hein, ta pépite, voir ce qu'il va pouvoir donner cette saison, et puis espérer Drummond, et espérer que Colin Sexton et Garland arrivent à mieux fitter, quoi. Apprennent
exactement. T'as un petit mot sur les adversaires de division que sont les Cavs, Adrien, sachant que, avant de terminer, je pense, hein, c'est la JB Bickerstaff, c'est pas la troisième fois qu'il devient intérim coach intérimaire, je crois. Hein.
C'est la troisième fois.
C'est bien possible, ouais.
C'est le spécialiste de la chose, et de ce que j'avais lu des certains insiders, il est très proche de Kevin Porter Jr.
Ouais.
Ça aurait été un des choix, et ça me fait grandement plaisir. Après, le reste, c'est un peu plus compliqué, je pense.
Pompier de service, mais après, c'est faut pas oublier le népotisme en NBA. Hein. Faut savoir que Bernie Bickerstaff est l'advisor directement de Kobe Altman. En fait, c'est lui son.
Ah, mais...
Donc,
Tom, Jetriano, Tyron Corbin ont toujours du travail.
Ouais.
Il faut juste que nous on arrive à rentrer dans le moule. Après, on sera bon. T'inquiète pas,
mais. Adrien, petit mot sur les Cavs ou je te lance sur les Knicks ? Tu choisis.
Ah là là,
le choix est cornélien. Non, bah un petit mot rapide sur les Cavs. Moi, je suis. Bah, c'est, vous avez fait un peu le résumé, hein, mais c'est là une nouvelle fois. Il y avait une tentative de reconstruction. Ils ont tout de suite. Enfin, on repart une nouvelle fois à zéro avec changement de coach, avec là, comme tu dis, l'évaluation que Kevin Porter a l'air beaucoup plus au centre des nouvelles idées des Cavs que l'association Garland-Sexton. Je pense qu'il y en a au moins un des deux qui risque de faire un peu les frais de cette expérience malheureuse. Après, aussi un des points quand même positifs, on va dire, du côté des Cavs, c'est qu'ils ont quand même des joueurs qui ont une valeur bon mitigée, mais qui existe quand même, notamment Kevin Love, où bah tu vas pouvoir avoir des choix forts à faire. Donc s'ils ont une vraie nouvelle idée, peut-être que ça peut porter ses fruits. Là, c'est vraiment. Mais de toute façon, dans tout ce groupe-là, ça se rejoint. Ça va aussi être la même chose un peu du côté des Knicks. Hein. On est sur une fin de saison d'évaluation des forces qu'on a, de qu'est-ce qui va dans l'idée qu'on se fait de notre projet actuel. Et puis, on verra bien ce que ça donnera. Donc, c'est valable pour les équipes d'avant comme pour les Cavs.
Bon courage.
Que c'est pour ça que je posais la question sur les Warriors, parce que pour les Warriors ne vont pas jouer la même chose l'année prochaine que les équipes qui sont dans ce lot-là. C'est pour ça que je posais la question du oui, mais aux Warriors, vous voyez vraiment qui? Parce que, en vrai, c'est pas vraiment. C'est important, mais c'est pas essentiel pour les Pistons, les Cavs, les Knicks, les Hornets de trouver vraiment des joueurs qui contribuent. Déjà, trouver des joueurs qui jouent à NBA, c'est déjà bien.
C'est ça, là où les Warriors vont plus s'atteler sur des joueurs qui vont pouvoir maintenir un plancher et contribuer sur 10-15 minutes, les Cavs. Et même les Pistons, hein, ils doivent trouver des starters, des joueurs de niveau starter qui ont un plafond plutôt élevé, quoi.
Ouais, autour desquels tu articules ton projet vraiment,
c'est
quoi,
ça,
qui sont des pivots.
Les blocs, c'est ça. Quoi.
Et surtout ne pas drafter par position. Pitié, s'il vous plaît.
Parce que le grand piège.
Le piège. En parlant de piège, Lenny. On salue Tom du Fresh Knicks Podcast. Chaque fois qu'on parle des Knicks, petite pensée.
Le FKP lui. Et Ben aussi.
C'est ça, Ben, mon collègue. Petite pensée pour les grands tweets d'énervement à 4h du matin. Ça me régale. Les Knicks qui ont traîné donc Marcus Morris, qui ont récupéré un pic, mon Harkless. Personnellement, j'attendais pas grand-chose de la saison des Knicks. Je sais pas, je les ai mis là parce que je pense qu'ils ont des meilleurs joueurs que les quatre autres équipes de cette zone-là, mais en fait ça marche pas tellement. Je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est plus dans le front office au niveau du coach. Tom, toi, qu'est-ce que t'en penses? L'expérience Miller pour l'instant, l'été des Knicks qui arrive.
Ben, les Knicks ont déjà gagné plus de matchs que l'an dernier. Hein. Donc c'est déjà quelque chose de bien. Ils ont gagné plus de matchs que l'an dernier. Ça se passe bien mieux visiblement sur le terrain avec Mike Miller qu'avec que ça se passait avec avec Fizdale. Donc, ben, tant mieux pour eux. Hein. Ben là, ce qui leur reste aussi à attendre, c'est voir la fin de saison, quoi, évaluer les jeunes, puisqu'ils en ont plein dans l'effectif, plein de jeunes entre guillemets cassés ou qui ont quelques problématiques pour prouver leur valeur en NBA. Donc, essayer de les développer et voir qui pourra contribuer dans le futur, même si on sait tous que les Knicks, en vrai, eux, c'est la Free Agency 2021 qui les intéresse, quoi, comme d'habitude.
Ouais, c'est toujours la Free Agency de l'année d'après.
Ouais,
malheureusement. Mais ce qu'il faut, c'est ce qu'ont montré certaines équipes, c'est qu'il faut aussi montrer un semblant de compétitivité pour pouvoir attirer. Donc, ça serait bien qu'ils gagnent voilà, plus de matchs et qu'ils développent. Je crois que c'est les stats que j'ai passés sur Kevin Knox qui est en grande difficulté.
Ouais.
Franck Ntilikina est dans sa troisième saison. RJ Barrett, bon, c'est son année rookie, c'est excusable. Voilà, est-ce que trouver un petit peu de son là-dessus, Mitchell Robinson aussi. Qu'est-ce que, pareil, même question, je te laisse terminer ces propos, Adrien, sur les Knicks.
Ouais, moi j'allais justement parler de Kevin Knox. Je trouve qu'il est, j'ai de l'empathie pour Kevin Knox. Oula. Qui est passé de... Bah ouais, mais sur la saison dernière, Kevin Knox a montré des choses, alors qu'il n'était pas forcément attendu à ce moment-là. Et son temps de jeu a été massacré à la hache. Et son niveau de jeu aussi, hein, donc c'est pas totalement immérité, mais genre sur une justement ce que tu dis Alan sur le visage que tu dois montrer quand t'es un vétéran qui va signer dans une équipe, enfin une équipe te convoite, t'as envie de voir un environnement positif où tu te dis ah bah tiens il y a une vague positive que ce soit pour les victoires ou tu vois des joueurs qui progressent et tu dis tiens moi j'aimerais bien m'intégrer au groupe, j'ai quelque chose à leur apporter, etc. Et un des gros défauts pour moi des Knicks sur ces dernières années, c'est que ça, on le voit jamais. Quel joueur est arrivé frais, brut au Knicks et a éclos au sein de cette franchise? Ça n'arrive jamais. Et du coup, c'est très compliqué de se dire, bah moi, star, je vais aller là-bas, puis autour de moi, il y en a qui vont aussi éclore et on va arriver à construire quelque chose. Et c'est pour une franchise qui a un attrait, comment dire, populaire. Les Knicks, ça restera toujours les Knicks, quoi, et qui est valorisé, qui est la franchise la plus chère, hein, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm. Qui, voilà, comparé aux résultats, c'est quand même totalement surréaliste. Mais voilà, basket, il y a un vrai contraste entre la popularité, l'énormité de ce que sont les Knicks et des projets successifs qui arrivent encore et toujours à New York. Et donc, moi, voilà, je trouve que Knox illustre ça. Et j'ai un peu peur de, comme vous disiez, on en plaisante à moitié, mais c'est la Free Agency d'après. Cet été, ils s'attendaient tous à voir KD, Kyrie et Zion. Et voilà, et tu as Barrett avec Julius Randle et
Marcus Morris.
Et Marcus Morris qui n'est même plus là.
Ouais.
Et c'est pas sans faire offense à ces joueurs-là. Voilà, c'est je pense que les Knicks des fois devraient mesurer leurs ambitions et reprendre quelque chose de plus structuré, on va dire.
Mais c'est triste en fait, parce que moi ce qui me gêne vraiment chez les Knicks, c'est que t'as même pas l'impression qu'ils arrivent à développer. En fait, t'as aucun jeune joueur, tu sais quel rôle il peut avoir vraiment dans une bonne équipe. À part peut-être Frank où tu dis...
Non, Robinson, moi, je pense.
Ouais, à part peut-être Frank et Robinson, où Robinson, t'as le prototype du rim runner et Frank, t'as le prototype du meneur de jeu, entre guillemets, backup, qui peut défendre sur plusieurs positions. RJ Barrett, tu sais pas vraiment c'est quoi son rôle, en fait, dans une bonne équipe, puisque c'est un joueur qui est en délicatesse, hein, offensivement, il a beaucoup de mal cette saison. Après... Le truc, c'est que c'est difficile aussi avec les jeunes des Knicks, puisque t'as toujours l'excuse de l'environnement n'est pas bon, tu vois. Donc, tout ça t'empêche vraiment d'évaluer correctement les jeunes joueurs. Et moi, c'est ce que je leur souhaite, c'est de pouvoir évaluer les joueurs qu'ils ont, quels joueurs pourront faire partie de leur futur, et d'essayer de partir sur quelque chose de correct, quoi, même si ça va prendre du temps, mais de pas à chaque fois se précipiter. Parce que moi, typiquement, hein, c'est les Knicks. Je ne serais pas surpris de les voir essayer de balancer un max sur Brandon Ingram ou un truc comme ça. Hein. Je ne serais pas surpris de les voir faire ça. Hein.
Non, moi non plus. Et même, tu vois, même Dennis Smith. Tu vois ?
Ouais.
Allez, on ira pas plus loin.
On va pas plus loin, on va pas plus loin.
C'est ça. Dernière équipe de... Vas-y, je t'en prie.
J'ai juste une question, du coup, pour vous. C'est genre, tu parlais d'RJ Barrett, genre quid d'RJ Barrett ? Est-ce que vraiment, là, cette année... Je pense que tu es capable de dire j'en fais une pièce, peut-être pas la première, mais la deuxième ou la troisième pièce d'un vrai projet. C'est compliqué.
Déjà,
je sais pas comment vous voyez.
C'est compliqué d'évaluer un rookie, mais il m'a pas
Je vois des flashs, mais il m'a pas rassuré sur le fait qu'il pouvait être une deuxième option d'une équipe qui joue le titre en NBA.
Alors, on est au même point qu'à la fin de l'année dernière, grosso modo, avec RJ Barrett. C'est ça, hein?
Ouais.
Au moment de sa draft.
Ouais, je suis à peu près sur ça. Je sais pas toi, Tom, mais...
Moi, je pense qu'il faudra voir si... comment il arrive à développer un peu de scalabilité. Mais c'est dur pour lui de développer de la scalabilité dans le sens où c'est un peu lui le dépositaire du jeu, puisque, enfin, je suis sans offense à Elfrid Payton, mais Elfrid Payton, ça va, c'est pas un gars
c'est
qui
pas
a
le
talent. Voilà, mais
c'est pas
un gars qui a les capacités et le skill set pour essayer d'en faire un meneur, entre guillemets, un meneur titulaire NBA, quoi. C'est pas un joueur qui a le style basketballistique du meneur de jeu que tu veux avoir à côté
de l'initiateur, quoi.
Voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est vraiment dur d'évaluer, puisqu'en fait, c'est, enfin, je vais faire un anglicisme, mais t'as l'impression que t'as la moitié des joueurs qui sont miscastés.
Ils sont pas dans leur rôle.
Voilà, c'est ça. Ils sont pas dans le rôle que tu voudrais qu'ils aient, et c'est difficile en fait de les juger dans autre chose que ça, parce que c'est ce qu'on leur demande de faire, et ce qu'on leur demande de faire, c'est pas ce que tu veux qu'ils fassent.
Exactement. Dernière équipe de ce dernier tiers en quelque sorte, les Hornets. Ont perdu Marvin Williams. Je pense pas qu'on va passer énormément de temps sur
MKG.
Et MKG du côté de Dallas. Ouais. J'avais juste noté qu'il arrive à Dallas. J'avais pas noté qu'il quittait les Hornets.
Ouais.
Adrien, petit avis sur les Hornets. Moi personnellement, j'en ai pas énormément.
Ouais, non, pas grand chose à dire. Bah, je les ai vus cette semaine parce que pour la reprise, ils ont joué les Bulls. Bon, ils nous ont
artillé.
Voilà, il y a quelques là. Voilà, on peut jauger quelques joueurs quand même du côté des Hornets par rapport à l'équipe précédente. Je trouve que PJ Washington fait une saison très intéressante. Enfin, il y a des flashs. Après, sur la consistance de la saison, c'est plus compliqué, mais c'est normal. Devonte Graham est une bonne surprise. Donc après le reste, voilà, j'ai pas spécialement d'avis sur. Bah, ils en sont au même point un peu que les autres. On fait avec ce qu'on a. On regarde ce qu'on pourra en faire. On se débarrasse financièrement de certains joueurs. Ouais, pas plus que ça. Il m'enflamme pas, enfin il y a voilà, le seul petit enfin pour moi l'espèce de bémol des Hornets, c'est que j'ai pas spécialement, je me dis tiens, je vais regarder les Hornets, il y a peu de choses où je me dis ah, je vais les brancher quand même, Devonte Graham peut-être un peu, et voilà tout, quoi.
Moi je trouve que c'est une équipe qui est un peu comme Détroit, sauf que eux ils ont plus de joueurs entre guillemets établis, si on compte pas Blake Griffin. C'est-à-dire que là c'est la phase dans laquelle ils Détroit, c'est-à-dire que là ils sont en mode on essaie d'avoir un maximum de cap space et d'identifier les jeunes joueurs qui pourront faire partie de l'avenir. Les Hornets, je pense qu'ils ont déjà trouvé quelques joueurs en fait qui peuvent faire partie de leur avenir, et qui ont aussi du coup la possibilité d'avoir le cap space pour jouer le côté acquérir des assets en ingérant des mauvais contrats et des contrats toxiques. Bon, Michael Jordan avec du cap space, c'est pas toujours quelque chose, c'est pas quelque chose d'encourageant. Mitch Kupchak non plus avec du cap space, hashtag Mozgov, c'est pas non plus quelque chose d'encourageant. Mais bon, enfin, tu vois, même si eux, tu vois, ils auront déjà eu, tu vois, la saison expérimentale avec leurs jeunes joueurs qui jouent de grosses minutes, et le type de joueur que ces mecs-là sont capables de devenir, et le type de skill set qui va leur manquer au plus haut niveau et pour aller un petit peu plus loin. Donc je pense que ça peut, c'est déjà bien en fait pour eux qu'ils fassent cette saison-là, quoi. Puisque les Hornets de base, on les avait tous beaucoup plus bas.
On les avait tous 30,
saison,
hein, je crois. Hein.
Oui, encore
pas loin.
Premier pick, moi personnellement. Je les avais vraiment, et ouais, je suis d'accord. Ouais, le petit, c'est ça. Devonte Graham, le trio Washington, Monk,
Bridges.
Ouais. C'est cliché. À chaque fois, on dit la même chose. Voilà, ils ont des jeunes draftés en loterie. On va voir ce qu'ils vont donner, mais c'est un peu ça. On passe, messieurs, à un trio. Donc de 24, 20, de 23 à 25. On a en 23e position de notre power ranking les Bulls, Adrien. En 24e position, les Wizards.
Bon chiffre.
Et en 25e position, les Hawks. Les Hawks sont derrière ces deux équipes-là.
Il n'y a que 3 points d'écart. Il n'y a que 3 points d'écart, ouais.
C'est pour ça qu'ils sont dans le même tiers, ça qu'il faut expliquer.
Ouais.
On l'explique au bout de 25 minutes, c'est totalement nul, mais les gens ont compris. Les équipes sont dans le même tiers parce qu'elles sont proches. Voilà, par
en termes de points, voilà.
Par le système de calcul de mise en place.
C'est ça, pour vous donner une ordre d'idée, les Bulls ont 138 points, les Wizards 145 et les Hawks 148. Voilà. Franchement, moi, au regard du classement, j'étais surpris en fait de voir les Wizards derrière les Bulls et les Hawks aussi.
Exactement.
Haut.
Alors moi, j'étais surpris parce que moi, j'ai fait.
On va parler des Hawks. J'ai fait le power ranking en ingérant l'idée que sur la fin de saison, ils auront plus Jabari Parker et ils auront Dwayne Dedmon.
Et Clint
comment
Capella.
Les mettre si bas? Ouais. Et oui, comment les mettre si bas? Plus de Jabari Parker, messieurs.
Ouais.
Enfin, sérieux. Bref, Atlanta qui a gagné deux fois, je crois, depuis le début du, ouais. depuis le retour. Miami et Dallas, je crois. Dallas sans Luka.
Ouais, dans un match un peu controversé, avec des coups de sifflet un peu douteux à la fin. Ouais.
Washington qui a réussi à perdre à la maison contre les Cavs, je crois.
Oui.
Ça.
Ouais.
Et Chicago qui a perdu deux fois, c'est ça, Adrien?
Tout à fait.
Le pauvre.
Bon, on va commencer par les Hawks qui sont 25e. Moi, je les avais un petit peu plus haut. Je vais pas faire grand chose. Voilà, voir l'intégration de Clint Capella, Dwayne Dedmon, le poste 5 solidifié.
De la compétence.
Beaucoup moins de Alex Len et Damian Jones et Bruno Fernando. Voilà, je pense que voir ce que peuvent donner tout ça et puis continuer à kiffer en vrai d'entrée. Donc, voilà, c'est mon avis là-dessus.
C'est ça, moi je trouve en termes de perspective, effectivement, les Hawks, on les sent, enfin ça peut être surprenant de les avoir plus bas que les deux autres équipes suscitées, mais en termes de niveau actuel, c'est vrai qu'il y a ces deux trois trades qui donnent envie à voir, hein, mais en termes de power ranking, moi, c'est comme je disais, quand on est arrivé à ces tiers-là, on devait les classer dans un certain ordre pour arriver voilà, à faire quelque chose d'assez correct, d'assez carré. Mais elles sont très très proches, hein. C'était difficile de faire un ordre vraiment établi sur une journée. Je vais avoir envie de me dire, tu vois, sur un grand match de Trae Young, on va avoir envie de se dire, ah, c'est vraiment, je vais mettre les Hawks devant, et puis le match d'après, ils vont être, enfin, ça va être un niveau, genre, Trae Young peut être en difficulté, et après à côté, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de création, il n'y a plus rien à Atlanta. Et on a à peu près les mêmes profils sur les deux autres équipes, c'est un peu différent, les qualités et les défauts, mais c'est un peu la même chose, ça dépend un peu du jour au lendemain. Moi, je trouve que c'est un tiers au moins cohérent, mais du côté d'Atlanta, on est sur, par rapport au tiers précédent dont on vient de parler, on est clairement sur une ascension, sur un projet avec une pente positive. Vraiment, on voit, on se dégage clairement la façon dont on va jouer, autour de qui on va jouer, qui peut contribuer. C'est beaucoup plus clair pour ces équipes-là, et donc notamment pour Atlanta.
Tom, petit mot sur la franchise de Géorgie.
Bah, les Hawks, comme je t'ai dit, moi j'étais un peu surpris de les voir, tu vois, même un peu devant les Hornets, quoi. Bon, après, tu me diras qu'au classement, ça se tient. Mais je pense que les ajouts et surtout la compétence, tu vois, quand tu imagines cette équipe là avec Capella, tu imagines cette équipe là aussi avec Dwayne Dedmon, qui peut être aussi un joueur intéressant, notamment pour à côté de John Collins, puisqu'il a des qualités qui vont permettre de maximiser un peu John Collins. Donc je pense que, enfin, ça va être important de pouvoir évaluer John Collins avant de devoir le payer cet été. Avant de devoir lui proposer l'extension cet été, bah, du coup, ça va être intéressant de pouvoir l'évaluer et de voir de quoi il est capable quand il a un pivot qui ne s'écarte pas à côté de lui, quoi. Puisque à la balle, c'est Capella qui est projeté. Bon, il a quelques problèmes à la voûte plantaire pour l'instant et c'est Dedmon qui joue. Mais typiquement, voilà, pour le match face à Dallas, j'en ai regardé un peu. Dallas a fait le choix d'éviter que Trae Young prenne feu, puisqu'il avait pris feu à 3 points, notamment face à Miami. Et Dallas avait fait le choix d'être très agressif sur lui. Et au final, ils se sont fait punir par John Collins, puisque John Collins avait énormément d'espace. Et du coup, sur tout ce qui était pick and roll, ou même sur dès qu'on lui donnait la balle après en sortie de trappe, dès qu'on lui donnait la balle, il arrivait à trouver la bonne décision offensivement. Donc, je pense que ça va être un truc intéressant à suivre sur la fin de saison. Et puis même Huerter qui est en grande difficulté, moi je trouve. Je sais pas, je le trouve un peu moins facile. J'ai l'impression qu'il est encore blessé. Je le trouve pas trop trop naturel, en fait, dans ses mouvements. Il est comment dire, je le trouve un peu lent dans sa prise de décision avec la balle, un peu entêté des fois, enfin, quand il va driver, genre par exemple, il y a une action où voilà, il prend un drive, il voit qu'il y a Marjanovic en face, mais qu'il est un peu en bout de course. Il va quand même tenter le layup, alors que bon, voilà, t'as un gars qui a les bras levés en face de toi, t'es en bout de course, tu ne peux que te faire contrer, quoi. Donc je pense que c'est ça va être une saison, enfin une fin de saison qui va être intéressant pour évaluer les jeunes des Hawks et voir à côté, quoi, qu'est-ce qu'ils pourront récupérer à côté ensuite.
C'est ça. Même avis, je pense qu'on me connaît sur les Hawks, ce que j'aime bien regarder. J'aime bien aussi regarder les Wizards. Ah. Comme aussi.
Ouais.
Les Wizards, les Bulls, 23-24. Les Wizards qui ont perdu Isaiah Thomas, qui ont échangé Jordan McRae du côté de Denver pour récupérer Jerome Robinson. Les Bulls qui n'ont pas bougé, mais qui ont, il y a des rumeurs en termes de front office et tout ça. On les a là parce qu'ils sont, bah, comme tu l'as dit Adrien, meilleurs que ce qu'il y a en dessous et moins bons que ce qu'il y a en haut. C'est un petit peu le cas partout dans ce classement. C'est le principe d'un classement, mais c'est le principe vraiment ici. Bah vas-y, on va Chicago, allez. Parce que Washington, bon, on connaît, on en parle souvent, tout le monde en parle, c'est tout pour l'attaque, rien pour la défense et Bradley Beal là-dedans. Mm-hmm. Plus peut-être se concentrer sur les Bulls, Adrien. Elle sert à quoi la fin de saison des Bulls ?
Peut-être à faire le ménage, on l'espère un peu, justement, tu les évoquais, les histoires en ce moment de bouger un peu du côté des front office. Je ne dois pas rentrer dans les détails parce qu'on n'aurait pas le temps, mais ça a l'air d'être un mouvement sur toute façade pour l'instant. Donc. Aucune enflammade. Après, du côté des Bulls, il y a cette excuse entre guillemets de beaucoup de blessés, comme souvent. On en est, je pense, là à cette saison prouve que Lavine peut être une pièce très intéressante autour de laquelle tu construis, sûr et certain. On évalue ce que peut donner Kobe White avec plus ou moins d'optimistes. Je fais pas partie, comme je vous le disais un peu off, des plus optimistes, mais ça reste quand même un jeune joueur intéressant. Et ensuite, bah, on espère retrouver les gens en forme pour savoir ce qui va se passer. Il y a aussi la question du coach qui commence à en énerver plus d'un avec ses temps morts à moins 14 à 20 secondes de la fin.
Quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Même le match contre Toronto. Le match contre Toronto, les mecs sont au moins à moins 15. Le gars prend un temps mort à 10 secondes. Alors que ouais, les gens voulaient regarder Super Bowl.
ça énerve les coachs en face. Mais après, on a eu plusieurs déclarations sur les joueurs au début qui comprenaient pas du tout la façon de fonctionner de Boylen, qui a aussi un côté très scolaire et très affectif. Il parle souvent de l'âme des joueurs. Bon, c'est un peu, on en pense qu'on en veut, quoi. Mais qui a l'air d'emmener un peu plus les joueurs avec lui, qu'il aime de plus en plus dans les dernières déclats. Je crois que c'est Wendell Carter qui en avait parlé. Donc cette saison, honnêtement, je pense ça va aller au bout comme ça. On va récupérer le pick 7 comme d'habitude, et puis le point sera fait à l'été. J'ose espérer qu'il y aura un petit changement parce que la salle se vide. On quand même, ce qui est assez étonnant, hein, qui était toujours United ouais. Center est toujours dans les tops des pourcentages de remplissement chaque année malgré le niveau de jeu qui peut fluctuer. Là cette année, ça commence vraiment à baisser et on sait que Reinsdorf, donc le propriétaire des Bulls, est très proche de ses sous et donc ça peut être un petit déclenchement d'un début. On va essayer autre chose, peut-être que ce sera pas grand chamboulement, mais si cet été il y a un nouveau GM qui arrive, où on lui donne assez de clés pour qu'on lui dise vas-y crée quelque chose avec les bases qu'on a, on peut avoir un début de renouveau. C'est le petit côté positif pour en ce qui concerne le basket. Et ben on va continuer à essayer d'espérer que certains vont rejouer, et sinon et ben on donne des minutes à Shaq Harrison, à Cristiano Felicio et à Mokoka, et puis on verra bien qui peut tirer son épingle du jeu.
Ah, c'est dur.
Je vais terminer, Tom, avant qu'on passe au tiers d'après.
C'est dur. Bah, comme tu as dit, hein, les Wizards, tout pour l'attaque, rien pour la défense. Une des pires défenses de l'histoire de l'NBA. C'est à signaler. Alors, très excitant à voir jouer, mais à noter, l'une des pires défenses de l'histoire de la NBA.
Des line-up des plus bancales.
Ouais. Voilà, bon, bah. Enfin voilà, ils sont quand même plaisants à avoir joué sur le côté offensif, mais défensivement c'est pas possible, quoi. Enfin bref. Et puis concernant les Bulls, c'est dommage qu'ils aient autant de blessés. Et moi j'ai l'impression que l'argument des blessures, ça va être un truc qui sera mis sur le tapis au moment où
Garbac.
Bah ouais, c'est ça, au moment
enfin d'agresser. Forman en parle tout le temps, enfin voilà, Forman et Paxson voilà, en parle souvent.
On a jamais été au complet, nanani nanana. Ouais, mais tu recrutes des gars blessés, mec. Tu vois que des gars qui ont des problèmes de blessures. Après, voilà, ils ont jamais été au complet. On peut pas savoir. Ils vont dire, voilà, on peut pas savoir. L'équipe, analytiquement, elle était bien. Il y a pas mal de personnes qui mettaient les Bulls en playoff. Au final, si les Bulls avaient le niveau que ce que tu attendais d'eux, bah, les playoffs étaient jouables, hein, vu le niveau qu'il faut avoir pour être playoffable à l'Est cette saison. Donc, c'est vraiment dommage. Moi, ce que je trouve bizarre avec les Bulls, c'est que c'est une équipe qui est horrible statistiquement, offensivement, alors qu'elle a des joueurs qui ont plutôt un profil offensif et qui est plutôt bonne défensivement. Qui est dans la moyenne de la ligue défensivement, quoi. Alors que les joueurs n'ont pas vraiment le profil défensif du tout, quoi.
Et nos deux défenseurs sont blessés actuellement. Enfin, ceux qui ont le profil défensif. Puis oui, ce que tu dis, je rebondis rapidement pour les joueurs injury prone, entre guillemets, pour l'anglicisme, donc les joueurs qui ont tendance à se blesser beaucoup. Je pense qu'autoporteur va top voir sa valeur shooter. Baisser. Et autant pour moi. Autoporteur top 15 shooter voit sa valeur un peu baisser cette saison. Ça fait un moment qu'il joue. Est-ce qu'on peut vraiment compter sur lui? Le basketteur, il n'y a aucun souci. Il a été très intéressant par séquence au poste 3. Est-ce que vraiment le joueur, on peut compter dessus vraiment pour en faire ton poste 3 au centre de ton 5? Malheureusement, c'est pas très sûr. Donc vraiment, sur ce poste-là, il y aura des questions à se poser, notamment.
Oui, il a une option à 26 millions. Hein.
Oui. Exactement. Sans commentaire.
Soyons précis sur la longueur des contrats et les options.
Ouais. Exactement.
On passe, messieurs, au troisième tiers. De 18 à 22. Des équipes dont on a déjà parlé dernièrement, d'ailleurs. Des équipes qui... on peut pas vraiment dire qu'elles se battent pour les playoffs, mais elles sont pas non plus en course pour le top 5 de la draft. Quoi.
Ouais, c'est ça.
Un petit peu ça. On a les Spurs en 18e. Le Magic en 19e
qui est en playoff.
Tom Mervick qui est en playoff et qui a récupéré James Ennis.
Qui start.
Les Suns. Les Suns en 20e position. Qui récupère Dario Saric et Aaron Baines. Ça va être intéressant. Les Kings en 21e. Qui ont battu les Clippers un jour avant l'enregistrement. Qui ont lâché Dwayne Dedmon. Je crois que c'est la pire signature de toute l'histoire d'Afrey Agency. Je pense que j'ai jamais vu un tel. Telle mauvaise signature. Et les Wolves qui ont en fait changé d'effectif. C'est-à-dire que les Wolves ont décidé.
Ils vont pas tout passer à la machine.
C'est ça. Ils ont décidé de garder Karl Anthony Towns, de garder Jared Culver et Josh Okogie. Et tout le reste, on échange. Donc plein de nouveaux joueurs. Vous en avez suffisamment parlé il y a deux semaines, je pense, des Wolves. En plus, Kat est blessé.
Ouais.
Donc ça les arrange pas du tout. Est-ce qu'il y a une équipe dans ce que j'allais dire ce quatuor maintenant parce qu'il y en a 5 qui vous titille un petit peu plus entre Spurs, Magic, Suns, Kings et peut-être même Wolves, même si vous en avez déjà parlé?
Moi plutôt les Kings, puisque les Kings en fait ils sont dans une période où au final les mouvements qu'ils ont fait avant la trade deadline leur sont plutôt profitables, notamment l'acquisition de Ken Bazemore hein, qui est plutôt intéressant pour eux. Mais même tu vois d'un point de vue, enfin c'est une équipe qui a quand même de bons résultats sur les derniers matchs. Ils sont largement positifs sur les 10 derniers matchs, donc c'est assez positif pour eux. T'as des Aaron Fox qui revient à un très bon niveau. D'ailleurs ils ont joué contre Memphis et des Aaron Fox était le meilleur joueur sur le terrain. Ils ont gagné d'ailleurs contre Memphis, même s'ils se sont fait peur un peu en fin de match. Et plus globalement en fait à l'intérieur de la franchise, t'as l'impression qu'en fait ce qui se passe sur le terrain et limite mis de côté par rapport à ce qui se passe sur leur terrain. Il y a eu notamment plusieurs articles qui sont sortis dans The Athletic pour remonter les tensions qu'il y a entre Divac, le front office, les propriétaires sur le choix Doncic. Voilà, il y a le Buddy qui serait pas content de sortir du banc, Bogdanovic, est-ce qu'ils vont le payer, tout ça. Donc il y a pas mal de j'ai l'impression en fait c'est un peu une cocotte en fait sous pression, et aujourd'hui que ce sont les victoires actuelles qui font que l'équipe n'implose pas, puisque même le coach aussi est dans l'œil du cyclone hein.
Ah oui, même beaucoup même. Pour le regarder
Walton
beaucoup,
ouais.
C'est pas simple franchement, et comme on en parlait en off de Tom, les Kings et les Suns vont pendant 10 ans se prendre la narrative
Doncic, ouais, Doncic.
Ça. Donc ils devront faire avec. Et donc c'est pas simple.
C'est ça, surtout que Bagley est blessé, ouais.
Bagley est blessé, exactement. Il y a eu des blessés. Il y a le quid de Bogdanovic avec l'argent qui a été donné à Barnes.
Ouais.
À Hill qui sort du banc. Je suis pas sûr que ça soit la meilleure idée. Vu comment il a parlé juste avant d'être payé. C'est très décevant du côté des Kings. Du côté Adrien, excuse-moi, Spurs, Magic, Suns.
J'ai envie de parler Suns aussi parce que hier ils ont joué les Bulls, donc j'ai peut-être un peu vu. Mais comme tu disais, ils récupèrent Saric et Baines.
Ouais.
Et les Suns avaient fait un très bon tout début de saison qui avait enflammé pas mal de monde, peut-être un peu trop d'ailleurs, un peu trop vite. Ça s'est un peu calmé depuis, mais au complet, je trouve que ça reste intéressant. Je pense que leur dernière partie de saison, avec justement tout le monde, toutes les pièces que tu as envie de voir pour essayer de construire, puisqu'ils ont amené Ricky Rubio, on le rappelle, cet été, pour soulager Devin Booker de la création dans leur attaque. Je pense que ça va être intéressant. Ayton, je pense que l'All-Star Break peut lui faire du bien. Alors effectivement, il y a le narratif Luka Doncic qui viendra tout le temps polluer le hors-terrain.
Ouais.
Mais sur le terrain, si Ayton trouve le rythme... Bon, hier, il nous a massacré, nous, mais bon, notre secteur intérieur est décimé, donc je ne sais pas si c'est vraiment... ça illustre vraiment des capacités, mais je pense que voilà, en récupérant Saric notamment, pour retrouver la line-up prévue entre guillemets avec Saric en 4 et DeAndre Ayton en 5 et Aaron Baynes qui est un très très bon remplaçant dans une équipe NBA, voilà, moi je pense que c'est une équipe qui va être excitante à regarder et qui peut retrouver une dynamique de progression qu'ils avaient entamé en ce début de saison. Forcément, il y a des hauts et des bas, mais justement, ils sont dans cette saison-là, eux, le cap d'après d'un peu des équipes dont on parlait précédemment. Et au sein de ce tiers-là, c'est ceux qui, je pense, selon moi, ont la dynamique la plus positive, l'environnement global le plus sain, où tu te poses pas spécialement des questions en te disant qui va sauter demain. Elle est pas là la question. C'est plutôt comment on continue à construire sur notre bonne lancée. Et c'est moins le cas des trois ou quatre autres équipes de ce groupe-là. Quoi.
Bon, assez d'accord avec ce que tu viens de dire.
Je suis assez d'accord. Si on veut un petit mot perso sur le Magic et les Spurs, le Magic a de la chance d'être dans la conférence Est au niveau des playoffs. Et les Spurs,
ça n'a pas bougé. Non, c'est ça aussi qui était un peu étonnant. Spurs,
À part Carole qu'ils ont coupé, ouais. Mais coupé, enfin, qui a été buyout, du coup, qui va se retrouver à Houston. Mais les Spurs, tu vois, c'est la seule équipe de ce tiers-là, entre guillemets, enfin, avec Orlando, même si Orlando, voilà, ils sont à l'Est et ils sont en play-off, donc c'est leur objectif. Mais les Spurs, c'est la seule équipe, tu te dis, bon, ils peuvent peut-être faire un run, mais en même temps, personne n'y croit.
C'est un peu ça. Mais ils sont sur une bonne dynamique, là. Je crois que Dejounte Murray, les deux derniers matchs depuis la reprise, est bien, mais c'est difficile de se dire que juste la trêve permettrait de relancer une vraie dynamique. C'est vrai que c'est difficile d'y croire, quoi.
On va passer, messieurs, pour terminer cet épisode, au dernier tiers de la première partie du Power Ranking. Donc les équipes de 17 à 14. On a Portland en 14e position avec Lillard qui s'est blessé et qui ont perdu un match important contre les Pelicans juste après l'All-Star Rep. On a les Grizzlies, Tom, en 15e position, qui ont échangé Crowder et Godala, qui ont récupéré du Justice Winslow, du Jordan Bell, Gorgui Dieng aussi, qui nous parlera de tout ça. Les Pélicans, j'assume mes Pélicans, ils sont dans la course au playoff. Et les Brooklyn Nets en 17e position avec toutes les annonces autour de Kyrie et de sa blessure probable fin de saison avec son opération. On a beaucoup de choses à parler là-dessus, blessure, course au playoff. Tom, dans ces quatre équipes-là, sur qui tu as envie de mettre l'accent?
En fait, c'est un peu le tiers des blessés. C'est un peu le tiers des blessés avec du coup les Blazers qui ont perdu Lillard pour pas mal de temps, les Grizzlies qui perdent Jaren Jackson Jr. pour 2 semaines au moins, alors que c'est l'équipe qui a le calendrier le plus dur jusqu'à la fin de la saison, et les Nets qui ont perdu Kyrie Irving pour visiblement la fin de la saison à cause de sa blessure à l'épaule. Moi, je mettrais plutôt l'accent pour le coup sur les Pelicans qui sont un peu qui ont quitté du coup le côté blessure de joueur majeur avec le retour de Zion Williamson et qui sont les favoris entre guillemets pour récupérer la huitième place pour aller en playoff. Vu que c'est l'équipe qui a le calendrier le plus facile entre guillemets selon 538. Enfin, selon Basketball Reference avec son indice SOS, Strength of Schedule, pour la fin de la saison, et qui est le favori par le site 538 pour accéder au dernier spot des playoffs. Moi, c'est une équipe qui est vraiment excitante. Je pense que la narrative sera poussée pour que cette équipe-là aille en playoff, notamment pour avoir un affrontement entre les Lakers au premier tour, puisque s'ils récupèrent la huitième place, c'est contre les Lakers vraisemblablement qui devraient jouer. C'est une équipe qui est dans une dynamique très positive. Ça attaque, ça défend, ils sont excitants. Zion, c'est n'importe quoi ce qu'il fait. Enfin, là encore, les pivots n'ont même pas assez de force pour le contenir. Les postes 4, c'est même pas en parler, mais il est tellement vif, j'ai jamais vu ça en fait. C'est un gars, il fait des trucs en un saut, il fait un truc que normalement tu devrais faire en deux sauts. Il va trop vite.
vite et fort et puissant. Il, ouais, il y a des backdowns improbables. Enfin, il arrive avec un mélange de vitesse et de force dans ses appuis, qui est vraiment, enfin, c'est tout ce qu'on nous avait vendu, mais effectivement, il le prouve. Il fait des moves 2K, quoi, on va dire.
Ouais, c'est ça,
avec des
c'est
upstep
ça, mais...
dunk qui n'existent que dans NBA 2K normalement. Mais effectivement, juste rapidement aussi, je suis d'accord, c'est les plus excitants de ce groupe-là en ce moment. Pour tout le monde, ils plaisent à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que autant ceux qui sont hypés par les grands noms que ceux, les un peu
un
plus.
Un peu hipster, ouais.
Un peu hipster, voilà, le hipster Twitter aussi qui va les aimer. Ouais, ça roule bien. Effectivement, dans ce groupe-là, c'est peut-être les favoris, mais c'est surtout les favoris à voir, quoi. Que sur cette fin de saison, ça fait partie des équipes League Pass, on va dire, de ceux où tu le soir tu regardes, tu dis bah tiens, les Pelicans, j'ai bien envie de me mettre un petit match.
Ouais. Le jeu en face-up de Zion, c'est n'importe quoi.
Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est attendez qu'il soit utilisé autrement aussi. Attendez qu'on lui mette le ballon en main, parce qu'il est utilisé qu'en short roll, hein, pour le moment.
Ouais, un peu. Après, il a quand même ses petites positions. Il se retrouve à 4-5 mètres, un peu en iso face-up, où il tue littéralement tous les joueurs qui sont en face de lui. Il n'y a rien à faire. Et même quand il rate le tir, il prend le rebond.
Ouais. Oui, il est plus fort, plus tonique, plus physique, plus puissant.
Plus tout.
Donc c'est ça. il est plus Zion, quoi. Et je pense que... C'est parce qu'on parle un petit peu de ça. Ils sont en retard quand même, parce qu'au moment où on parle... Pour les playoffs, 3 matchs, je crois, 3-4 matchs de retard
sur Memphis.
Sur Memphis. Tom, Memphis, il y a eu du mouvement. Il y a toujours. L'équipe a perdu quand même un solide joueur en Jake Crowder, qui a porté pas mal dans cette équipe. Des minutes récupérées, je crois, par Josh Jackson et Kyle Anderson, notamment. Ma question est simple, est-ce que Memphis sera en playoff?
Moi, j'y crois pas. J'en ai parlé avec Antoine, que je salue lors d'un podcast de nos confrères de l'Écho des Parquets, qu'on salue. Et moi, je pensais qu'on avait 20% de chance, entre guillemets, de se qualifier par rapport à la difficulté de calendrier qui nous attendait, le possible rookie wall de Ja Morant. Et le fait que voilà, on s'appuie essentiellement sur des joueurs jeunes et sur des joueurs qui ont une haute variance en fait dans leur profil de shoot et dans leur profil offensif. Là où par exemple un joueur comme Dylan Brooks, qui fait partie des joueurs les plus importants offensivement de l'équipe, depuis à peu près 3 semaines, il met rien dedans. C'est un gars qui est passé du mois de janvier à quasi 20 points de moyenne, là il doit être à 11 points, quoi, sur des pourcentages dégueulasses. Donc je pense que voilà, on est déjà passé au-dessus de l'over-under, mais je pense que là les blessures, surtout Jaren Jackson Jr., qui est pour moi le deuxième joueur le plus important du système offensif, puisque c'est un joueur qui, en plus de sa réussite et de ce qu'il génère en termes de points, c'est tout ce qu'il apporte et et toute la scalabilité en fait qui donne de la flexibilité aux différents types de line-up que tu vas pouvoir proposer, aux différents types de variantes que tu vas proposer dans tes systèmes, et toute l'attention en fait qu'il a quand il n'a pas le ballon, en fait, qui permet d'ouvrir des positions à des joueurs comme par exemple Valanciunas ou même Brandon Clark quand il joue à deux. Donc tout ça, on perd ça, et je pense que ça nous enlève directement de la course, hein.
Exactement. Et il y a eu, je crois, 2 défaites. T'en parlais, Tom, en sortie de All-Star Break. À Sacramento et aux Lakers.
C'est ça. Donc la défaite contre Sacramento, un peu logique. Sacramento qui était en feu à 3 points en première mi-temps, avec notamment Harrison Barnes qui fait un 6-6. Et en deuxième période, Darren Fox était le meilleur joueur sur le terrain. Et il a démontré, quoi, il n'y avait rien de plus à faire. Et puis le match contre les Lakers en back-to-back, il n'y avait pas grand-chose à faire. Malheureusement, on perd Jaren Jackson Jr. sur une mauvaise réception, sur une tentative de contre. Et voilà, il n'y avait pas grand-chose à espérer. Et là, ce soir, rebelote avec les Clippers. Là, on fait Clippers, Houston. En fait, si tu prends en gros les adversaires, le pourcentage de victoire actuel des adversaires qu'on a jusqu'à la fin de saison, c'est 52%.
Ok, ouais, pas simple. Adrien, Blazers, Nets, Lillard, Kyrie, je te laisse. Qui est-ce qui t'intéresse là-dedans?
Portland qui est dans le power ranking devant les Grizzlies et les Pelicans. On l'a fait il y a 10 jours.
C'est ça.
L'actualité. C'était avant la blessure de Lillard. Les Nets qui sont là, qui un peu comme le Magic peuvent dire merci d'être dans la conférence Est et qui ont sans doute perdu Kyrie.
Bah c'est ça, tu as dit l'essentiel sur les Blazers, c'est qu'on en parlait un peu avant la blessure de Lillard. Du coup, il y avait un optimisme qui est, parce que Lillard était sur un nuage, enfin même plus sur un nuage à ce moment-là, il était totalement dans les étoiles.
Ouais.
Et qui était en train de les remonter parce que ça coinçait aussi un peu dans ce. Enfin, la 8e place à l'ouest est assez ouverte parce qu'elle est assez indécise. Les équipes sont un peu sur courant alternatif. Là, avec la blessure de Lillard, on a du mal à les voir. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai du mal à les voir aller du coup chercher ce 8e spot, malheureusement. Du côté des Nets, c'est pas aussi noir parce que certes, tu perds Kyrie, mais bon, la stat qu'on voit tourner partout, c'est évidemment qu'ils ont un meilleur ratio de victoire sans Kyrie cette année qu'avec lui. Et justement, puisqu'ils sont à l'est, avec leur effectif qui est cohérent, qui est assez homogène en fait au final pour les Nets sans leurs deux gros stars. Je pense qu'il suffira à accrocher. Moi, c'est cette équipe. Je pense qu'il peut accrocher les playoffs, peut-être plus que le Magic d'ailleurs. C'est une équipe, enfin, qui roule bien. Enfin, c'est l'équipe qu'on retrouve l'équipe sans avant cet été. Bon, avec d'autres pièces, Timothée Luwawu-Cabarro qui trouve d'ailleurs sa place. Ça fait plaisir en tant que Français. Donc, je pense que
les Bulls aussi.
Oui, oui, il est passé chez nous, mais il était intéressant. Bon, après, c'est par séquence, c'était compliqué. Mais je pense que la blessure du meneur titulaire est beaucoup plus préjudiciable du côté des Blazers que du côté des Nets, qui eux doivent continuer sur leur lancée, puisque de toute façon Kyrie avait déjà raté beaucoup de matchs et que ils doivent pas repartir de zéro. Ils ont déjà dû faire sans vraiment. Là, du côté des Blazers, on a bien vu que sans Lillard, ça devient vite compliqué.
Sans les meilleurs, des moins mauvais.
La question elle est simple, Tom. Est-ce que c'est mort pour les playoffs pour Portland?
Pour moi, je pense que c'est mort, parce que si Lillard n'était pas blessé, je pense qu'ils auraient eu beaucoup plus de chance. Mais là, je pense que ça va être trop compliqué. Les Pelicans ont vraiment le vent en poupe. Ils ont aucune solution vraiment pour. Enfin, quand ils ont joué contre les Pelicans, ils se sont fait massacrer en plus là. Donc, moi, je pense qu'ils auront beaucoup de mal, puisque aujourd'hui, l'attaque repose vraiment sur CJ McCollum. Et je pense que c'est. Tu peux pas espérer gagner beaucoup de matchs dans cette configuration-là quand ta défaite est aussi mauvaise, puisque Portland depuis le 1er décembre a la 29e défense NBA.
Oui.
C'est le fait, en fait, ils compensaient parce que Lillard était indécent offensivement, mais comme ils ont perdu du côté justement le gros boost offensif de Lillard, je pense que la perte offensive n'est pas compensée en fait par le déficit défensif qu'ils ont, et malheureusement ça fait une équation négative, et je pense que c'est une équipe qui est condamnée à perdre encore beaucoup de matchs.
Je suis assez d'accord. Pour ça que moi je vois l'ouverture pour les Pelicans en fait.
Mm-hmm.
Moi je la vois clairement, c'est pour ça que je les avais aussi haut dans mon power ranking personnel. Je vois que les Grizzlies qui font une très très belle saison, Tyler Jenkins super. Vraiment, encore une fois, c'est un très très beau travail. Mais je les vois une équipe, comme tu as dit Tom, qui va avoir un calendrier peut-être compliqué et qui a perdu des éléments. Et je vois Portland qui, même avec un Lillard en sur régime, était quand même même pas en positif par moment. Donc,
dans ça là, c'est une équipe qui est obligée de compter sur Gary Trent, qui est obligée de compter sur un Fernie Simmons. Donc,
Wenyen Gabriel.
Voilà, c'est pas Wenyen Gabriel qui a des minutes. Hein. Il y a même un pivot là, Brown, un pivot loxé.
Moses Brown.
qui a quelques minutes. Mais tu vois, c'est pas normal. Mais quand tu regardes les joueurs absents en ce moment dans cette équipe, certes, t'as Damian Lillard, mais faut pas oublier qu'il y a Nurkic qui est de côté. Ont perdu un peu plus tôt dans la saison Collins. Ils ont perdu
Ezonia.
Hood. Ils ont perdu Ezonia. Ben, au final, ils ont perdu pas mal de monde dans la saison.
Oui, c'est ça. De l'ossature de
l'ossature
passée. Ils ont aussi perdu Meyers Leonard.
Ouais,
ils ont
ça.
Aussi perdu
Aminou. Ils ont perdu
Harkless. Aminou, Mo Harkless.
Ouais, il y a eu beaucoup beaucoup de changements, et malheureusement les paris qu'ils ont pris n'ont pas été payants. Où ils ont été victimes de problèmes de blessures. Et malheureusement, je pense que ça va. Quand t'as autant de blessés, en fait, tout le long d'une saison, tu le ressens, puisque au final, tes titulaires sont obligés de jouer plus de minutes. Des joueurs qui sont pas censés jouer et qui n'ont pas forcément le bagage pour répéter les efforts continuels et avoir des rôles majeurs. On peut parler de Simmons qui, par exemple, qui a commencé la saison où il était totalement en feu et qui du coup, depuis, est beaucoup moins adroit en termes de shoot. Un peu Gary Trent Jr. aussi, qui est un peu, entre guillemets, un joueur pièce en l'air. T'as des matchs où il va tout rentrer et des matchs où il va rien mettre. Donc, tu
Carmelo.
Vois, voilà, c'est même Carmelo Anthony qui est dans sa 17e saison NBA, quoi. Enfin, voilà, tu peux pas attendre de Carmelo Anthony d'être un gars hyper positif, quoi, dans sa 17e saison NBA, quoi. Donc, voilà, c'est une équipe qui a des limites, qui avait des limitations dans son roster quand ils ont commencé la saison. Et qui là, ben, quand tu regardes les forces en présence, ben, il n'y a pas photo entre, par exemple, la dynamique des Pelicans, c'est le niveau de jeu que cette équipe-là peut afficher, et ce que peuvent afficher les Blazers aujourd'hui. Hein, il n'y a pas photo. Hein.
Exactement. La rotation des Pelicans, quand ils sont au complet, ils peuvent
alléchante.
Jouer à 10-11. Et ouais. Donc, c'est intéressant. Et comme tu l'as dit, Tom, Gary Trent, Anthony Simmons, c'est vraiment bien, et pour le développement, c'est super, mais c'est pas Détroit ou Cleveland, quoi.
C'est Portland.
Essayent, tu vois, ils essayent de jouer les playoffs.
C'est ça.
Il y en a des minutes à Jalen Horde ou Moses Brown. Des équipes le feraient. Mais eux, c'est une équipe qui doit gagner maintenant. Et avec les blessés, c'est compliqué. C'est pour ça que même s'ils sont 14e dans notre power ranking, je pense qu'avec le recul, si on le refaisait maintenant, ils seraient plus bas.
Ouais, c'est ça. Après, ils sont 14e, mais quand tu regardes, voilà, ils ont un point devant les Grizzlies. Ils ont, ouais, ils ont 89 points, les Grizzlies 90, les Pelicans 94 et les Nets 100.
Pour ça qu'il y a qui sont dans ce même groupe, en fait.
C'est ça.
Un groupe commun. Et pour découvrir les 14 premières équipes du classement, il faudra nous écouter la semaine prochaine.
Quel teasing.
Exactement. J'ai fait ça toute ma vie. On a, on parlera de ce qui se fait de mieux en NBA. On a été un petit peu dans la difficulté, mais c'est aussi toute équipe est intéressante, tout projet est intéressant. On a essayé de parler d'un petit peu tout le monde. En moins d'une heure, les gars, c'était une belle reprise. NBA reprend, les choses sérieuses arrivent, et donc nous, on va se retrouver très très vite. Je vous dis salut, à plus.
Merci les gars.
Salut.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.